s'est déclarée prête à coopérer avec le CS sur le terrorisme. Le ministre iranien de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, a exprimé la volonté de l'Iran de coopérer avec l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, dans la lutte contre le terrorisme. Lors d'une réunion organisée par l'Ouzbékistan, le ministre iranien de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, a déclaré que la République islamique était pleinement prête à coopérer avec les pays membres de l'OCS dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Dans son discours, Vahidi a souligné que la République islamique d'Iran est elle-même victime du terrorisme international et a souligné qu'elle était entièrement prête à coopérer avec l'OCS dans cette lutte. Le ministre iranien a également souligné que l'Iran a accueilli 4,5 millions de réfugiés afghans, a souligné que l'aide de l'ONU à cet égard est insignifiante. Il a souligné que la République islamique d'Iran est prête à partager ses expériences avec d'autres pays afin de résoudre les problèmes liés à l'Afghanistan. Le ministre iranien a en outre souligné que la République islamique d'Iran condamnait toute forme de terrorisme. À l'issue de cette réunion, un communiqué final a été signé par l'OCS. Il convient de mentionner que le processus d'adhésion de la République islamique d'Iran à l'OCS a commencé depuis le sommet de l'année dernière de l'organisation à Douchanbé au Tadjikistan. Le prochain sommet de l'OCS devrait se tenir à Samarcande en Ouzbékistan. Le ministère russe de la Défense a informé que l'Ukraine prépare une provocation le jour même de la visite du secrétaire général de l'ONU, Antony Guterres, à Lvov, où il rencontrera Zelensky et Erdogan. Ce jour, c'était hier le 19 août. La provocation en question concernait le complexe nucléaire de Zaporijjia, centrale de 6 réacteurs dont 2 seulement sont en service actuellement. Il est amusant de constater que les Ukrainiens accusent les Russes de bombarder la centrale alors que cette centrale est sous le contrôle des forces russes. Depuis plusieurs semaines, les Russes se bombarderaient donc eux-mêmes. Ceci ne semble pas tenir la route et surtout pas gêner les Occidentaux qui reprennent tous encore les stupides accusations ukrainiennes. La réalité est que Kiev bombarde la centrale depuis que les Russes en ont pris le contrôle, tout simplement dans le but de faire pression sur les Occidentaux pour recevoir plus encore d'armes et munitions. Or, les Occidentaux commencent d'une part à comprendre que l'Ukraine n'a aucune chance de gagner contre la Russie, mais aussi et surtout leur stock de matériel militaire est gravement bas. Un haut responsable de l'OTAN déclarait en substance que si la Russie voulait maintenant attaquer un pays de l'Alliance, elle n'aurait pas grand monde en face. L'Ukraine envisagerait donc une provocation majeure pour convaincre les Occidentaux, malgré tout, de renforcer leur livraison d'armes, voire d'intervenir directement, par exemple sous couvert d'une force d'interposition de l'ONU sur le territoire de la centrale nucléaire Zaporijjia. Cette provocation majeure ordonnée par Zelensky lui-même est une action de commande des Ukrainiens infiltrés sur le territoire de la centrale pour endommager les réacteurs ou faire exploser les protections des stocks de déchets enfouis. Ces commandos sont composés de membres des forces spéciales ukrainiennes sous un commandement mixte ukrainien, autant plus particulièrement ukrainien-Angleterre. Une telle opération provoquerait une situation de type Tchernobyl. Les services russes ont d'ailleurs arrêté avant-hier 2 employés ukrainiens qui donnaient des instructions pour faciliter des actes de terrorisme. Par mesure de sécurité, les autorités locales font actuellement évacuer les alentours immédiats de la centrale. Ces Ukrainiens sionisés semblent prêts à tout. Une autre opération est envisagée par Zelensky, attaquer le pont de Crimée qui relie la Crimée au continent. Cette action pourrait être menée symboliquement le 24 août, jour de l'indépendance en Ukraine. Cette opération a d'ailleurs été en quelque sorte annoncée par plusieurs personnalités ukrainiennes Il est clair que, malgré le système de protection du pont, plusieurs batteries S-400 et autres systèmes y ont été déjà installés. Une attaque massive menée à l'aide des armes occidentales pourrait permettre à quelques projectiles de passer au travers des défenses. Zelensky, selon nos informations, hésiterait encore à donner l'ordre par peur des représailles. Cette dernière semaine, plusieurs opérations de sabotage ont d'ailleurs eu lieu en Crimée. Il faut bien comprendre qu'il est très facile à des commandos de frapper n'importe où. Si une décision, par exemple, de faire exploser le palais de l'Élysée était prise, cela serait fait sans grande difficulté. L'ancien président Medvedev l'a d'ailleurs rappelé hier en déclarant qu'il y a d'autres centrales dans le monde qui peuvent faire l'objet d'attaques. Tout ceci se place dans une logique d'escalade de la part de l'Ukraine, dont les forces laminées sur le territoire ne sont plus en mesure de s'opposer aux avancées russes qui se poursuivent lentement mais sûrement sur tous les fronts. L'OTAN pense par ailleurs ouvrir un nouveau front contre la Russie, toujours par pays tiers interposés, cette fois dans les Balkans. Le 1er novembre, en effet, les autorités du Kosovo vont mettre en place de sérieuses mesures discriminatoire contre les Serbes. Ces mesures avaient été mises en place il y a 2 semaines, mais les vives réactions serbes les avaient fait reporter au 1er septembre. La Serbie, pas plus que la Russie, ne reconnaît l'état fantoche du Kosovo et la Russie a déjà annoncé qu'elle soutiendrait la Serbie. L'OTAN, de son côté, s'est déclaré prêt à intervenir en cas de besoin. Le but réel est ici de forcer la Russie à intervenir sur place et donc à dégarnir ses forces en Ukraine, du moins le pensent les stratèges de l'OTAN. Enfin, en Géorgie, au Kazakhstan et au Tadjikistan, les services spéciaux américains sont à pied d'œuvre pour organiser des actions hostiles à la Russie et pour que les autorités locales harcèlent la Russie, attaquent de citoyens russes, déclarations anti-russes, etc. Ces événements se placent dans le contexte international où non seulement les sanctions prises contre la Russie n'ont pas changé le déroulement de son opération militaire, mais se sont retournées contre les pays occidentaux bien plus qu'elles n'ont frappé la Russie. Les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine n'ont rien changé sur le terrain. Elles ne font que ralentir l'issue finale qui reste la même. Les objectifs de la Russie seront pleinement atteints. C'est pourquoi les pays occidentaux tentent maintenant d'une part d'aggraver encore la situation en Ukraine centrale de Zaporijjia, mais surtout d'ouvrir de nouveaux fronts contre la Russie. Ceci est un très mauvais calcul. Quand un pays joue sa survie pure et simple, il ne recule pas. La Russie non seulement ne reculera pas, mais se réserve d'avancer contre tout pays hostile. Ses nouvelles armes ne sont toujours pas entrées en action, faut-il encore le rappeler. Hélas, la France, au beau pays, est déchirée, voire déchiquetée, par les problèmes volontairement causés par une poignée de politiciens subjugués par la devise « The American First ». Et son peuple doit en payer la facture de plus en plus salée. Et dans la foulée, l'armée française, assise entre deux chaises et censée protéger les intérêts des USA. Quel front pour l'armée française? Texte par Bertrand Dunehou. Attaques au couteau de plus en plus régulières sont de l'endroit, immigration excessive et inconsidérée, dégradation de biens religieux et notamment chrétiens. Répression des gilets jaunes à coups de LBD, éborgnement de manifestants, collusion des gouvernants avec les médias et les entreprises pharmaceutiques. Confinement. Masquage, vaccination obligatoire et passe improprement appelé vaccinal ou sanitaire. Propagande dans les médias et gouvernants sur le conflit russo-ukrainien. Et que fait l'armée française là-dedans? Elle se plaint qu'elle n'a pas assez de moyens pour une guerre de haute intensité pour rester à la fois au Sahel, dont on sait bien aujourd'hui que notre présence militaire est loin d'aider à lutter contre le terrorisme, mais justifie plutôt que nous conservions des intérêts qui ne regardent que nos gouvernants corrompus et la défense du flanc est de l'Europe. Mais contre quel ennemi? Le nazi Zelensky ou le souverainiste Poutine? Militaires généraux, ne vous trompez pas de combat. Le premier à mener aujourd'hui est celui contre nos propres gouvernants. Le peuple français fait ce qu'il peut. Les manifestations dans les rues ne désemplissent pas dans tous les secteurs d'activité et depuis plusieurs années maintenant, les procès et recours sont nombreux. Nos gouvernants demandent et obtiennent la mise à la portée de personnels médicaux et de pompiers sous le faux prétexte d'une pseudo-vaccination qui n'est en réalité qu'un essai thérapeutique de grande ampleur dont les intérêts ne sont au mieux que financiers. Que vous faut-il de plus? Trouvez-vous juste nécessaire et bénéfique que l'on empêche des Français de fournir les ressources dont ils sont riches et qui enrichissent toute la partie par pure volonté de nos gouvernants d'atteindre des objectifs qui ne regardent que. Car à quoi pouvait bien servir cet opaque conseil de défense sanitaire créé en mars 2020 par Emmanuel Macron sinon à protéger des intérêts qui paraissent plus privés que nationaux. Mais le peuple français ne peut plus agir davantage aujourd'hui. Depuis le prolongement du quinquennat d'Emmanuel Macron, il ne peut que tenir bon. Or, il est de votre devoir de protéger le peuple français et sa patrie. C'est le devoir de toute armée. Le peuple vous demande de l'aider à remettre de l'ordre dans sa patrie. C'est aussi votre devoir. Il vous a désigné tous les ressorts et tous les points de corruption de nos gouvernants. Et c'est une corruption généralisée qui émerge au grand jour. L'iceberg s'est retourné. Il faut maintenant le faire fondre ou le briser. Mais le peuple n'a plus envie de prendre les armes de lui-même pour tuer sans discernement afin de prendre le pouvoir par la violence. Il voudrait au contraire pouvoir reprendre sa place avec juste et raison, ce qui implique toutefois la force que vous représentez. Et vous voudriez utiliser cette force pour d'autres combats que celui-là. Nous vous en supplions, soldats et généraux, abandonnez la France occupée par la corruption la plus nauséabonde et défendez le peuple français, la seule France libre. La Russie confirme le déploiement de missiles hypersoniques Kinjal à Kaliningrad. Sont-ils revenus ou bien est-ce les mêmes appareils qui avaient été repérés le 8 février dernier, se demande OPEX 360 cyniquement. Toujours est-il que le ministère russe de la Défense vient de confirmer le déploiement à Kaliningrad de 3 avions de combat MiG-31K porteurs de missiles aérobalistiques hypersoniques KH-47M2 Kinjal, dit OPEX. Aujourd'hui, 18 août 2022, dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de dissuasion stratégique supplémentaires, 3 avions MiG-31 équipés de missiles hypersoniques Kinjal ont été déplacés vers l'aérodrome de Tchekalovsk dans la région de Kaliningrad, a en effet annoncé l'état-major russe via un communiqué, toujours selon OPEX, et de préciser que ces appareils seront maintenus en alerte 24 heures sur 24. On ignore s'il s'agit des avions MiG-31 soupçonnés par la Finlande d'avoir violé son espace aérien dans la matinée de ce 18 août. Interroge OPEX, faisant partie des 6 armes invincibles dévoilées par le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, en mars 2018. Le KH-47M2 Kinjal est un engin dérivé du missile balistique Iskander d'une portée estimée à 2000 km. Il peut être doté d'une tête nucléaire ou d'une ogive à fragmentation de 500 kg. Il serait en mesure d'atteindre la vitesse de Mach 10, ce qui ne laisse quasiment aucun de temps de réaction aux défenses aériennes. Ce Kinjal a connu son baptême du feu dans le cadre de la guerre en Ukraine. Le 18 mars, l'état-major russe a en effet indiqué que ce type de missile avait été utilisé pour la première fois contre un entrepôt souterrain de munitions appartenant à la force aérienne ukrainienne située près de la localité de Delia Tune. Depuis, d'autres Kinjal ont été tirés contre des positions de l'armée ukrainienne, la dernière en date effectuée contre un site militaire de la région de Vinnytsia a été signalé au début du mois d'août. Pour autant, l'emploi de ce missile hypersonique n'a pas permis de donner un avantage significatif aux forces russes sur le terrain, dit cyniquement OPEX. Cela étant, le caractère stratégique du Kinjal dépend de la charge militaire qu'il emporte. Le déploiement de ces trois MiG-31K à Kaliningrad, territoire russe coincé entre la Lituanie et la Pologne, mais théoriquement la quasi-totalité des capitales européennes à sa portée, avoue OPEX par ailleurs. Le Kinjal peut être utilisé comme missile anti-navire, ce qui prend du sens dans une région comme celle de la Baltique où se trouve actuellement l'USS Kearsarge, un navire d'assaut amphibie américain de classe WASP affichant un déplacement de 40 000 tonnes. L'Allemagne va pouvoir contredire les États-Unis. Le vice-président du Bundestag appelle le gouvernement allemand à ouvrir le gazoduc Nord Stream 2. Face au risque de pénurie de gaz auquel est confronté Berlin à l'approche de l'hiver, le vice-président du Bundestag a demandé au gouvernement d'ouvrir le gazoduc Nord Stream 2, dont l'autorisation de fonctionnement a été suspendue le 22 février. Nous devrions ouvrir Nord Stream 2 au plus vite afin de remplir nos réservoirs de gaz pour l'hiver, a déclaré le 19 août le vice-président du Bundestag, Wolfgang Kubicki, alors où son pays est confronté au risque d'une pénurie de gaz pour la saison hivernale. Le fait que nous nous fassions livrer du gaz par la Russie n'est pas meilleur ou pire selon qu'il provient d'un gazoduc ou d'un autre. Le gaz de Nord Stream 2 n'est pas plus immoral que celui de Nord Stream 1, a estimé celui qui est également vice-président de sa formation politique, le Parti libéral-démocrate allemand, FDP, selon ses propos rapportés par la presse allemande. En Allemagne, la facture annuelle de gaz des foyers devrait augmenter de plusieurs centaines d'euros. De fait, si le gazoduc Nord Stream 2 a vu son autorisation de fonctionnement suspendue avant le lancement de l'opération militaire russe en Ukraine, l'Allemagne continue d'être approvisionnée en gaz russe via les autres pays pipeline reste en activité. Alors que le gouvernement allemand a d'ores et déjà annoncé à sa population des mesures de sobriété énergétique telles que l'instauration d'une limite à 19 degrés de la température dans les bâtiments publics, Wolfgang Kubicki presse l'exécutif de faire arriver davantage de gaz dans le pays. Cela aidera les gens à ne pas avoir froid en hiver et notre industrie à ne pas subir de graves dommages, a-t-il encore déclaré.